Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la paix de la part de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Notre méditation est construite sur deux passages de la Bible. Dans Amos chapitre 3, le verset 5 à 7, et dans Psaume 90, versets 13 à 17. Nous allons commencer par lire Amos chapitre 3, verset 5. Un oiseau tombe-t-il à terre sur un piège sans qu'il y ait un appât? Un piège se soulève-t-il du sol sans avoir fait de capture? Si le corps est entier dans une ville, le peuple n'a-t-il pas été alarmé? S'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a fait? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous lisons le psaume 90 à partir du verset 13. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Ravise-toi en faveur de tes serviteurs. Dès le matin, rassasie-nous de ta fidélité et nous crierons de joie nos jours durant. Rends-nous en joie tes jours de châtiment, les années où nous avons vu le malheur. Que ton action soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs fils. Que la douceur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Consolide pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, consolide cette œuvre de nos mains. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment que tu nous offres, pour cette parole. Parole que nous voulons que tu adresses toi-même à ton peuple en train de t'écouter maintenant. Nous prions que tu fraies le chemin vers le cœur de tout un chacun, afin que chacun et chacune tire profit de ce message en ce moment de détresse que nous sommes en train de connaître, non seulement dans ce pays, mais dans beaucoup de continents où le coronavirus est en train de faire ravage. Nous voulons compter sur ta grâce et nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint nous apporte le message voulu en ce moment difficile que nous traversons. Nous prions que tu nous y aides. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre message est circonscrit autour d'un thème que nous enseigne la maladie, la pandémie de coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le voyons déjà, nous en connaissons certaines choses par partir des réseaux sociaux, des médias, donc la radio et la télévision, à travers différents écrits qui sont faits aujourd'hui. La pandémie coronavirus est en train de se propager à un rythme accéléré et inquiétant. Il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce qui va nous arriver. Il est donc important de retenir que cette maladie est un ennemi redoutable qui est en train de ravager, qui a commencé en Chine et qui aujourd'hui se retrouve en train de faire des ravages en Europe, comme en Amérique aussi. Et en Afrique, il vient de faire son entrée. Et sur son passage, cette maladie est en train de faire des victimes. Nous avons pensé lire la parole de Dieu pour essayer de trouver ensemble quel message le Seigneur nous adresse au travers de cette pandémie coronavirus. Mon message sera circonscrit sur quatre points. Le premier point, c'est que nous allons nous poser la question, pourquoi cette maladie, ce virus, ou enfin cette maladie a commencé à faire ravage en Occident. Vous le savez, nous le savons tous, le monde occidental est un monde hyper informatisé, avec des avancées technologiques à la pointe, qui, comme nous le savons, ont amélioré la qualité de la vie de l'homme dans tous les domaines, et même au niveau du domaine de la santé. Des découvertes scientifiques ont été faites, des hautes factures scientifiques, qui ont démontré que, même au niveau de la santé, le système sanitaire en Occident aujourd'hui est le plus attrayant et contribue essentiellement à l'amélioration de la qualité de la vie de l'homme. Mais qu'est-ce qui arrive? Parce que depuis que coronavirus est arrivé en Occident, cette maladie les plonge dans une situation où même les institutions sanitaires les plus développées se retrouvent débordées, plongées dans la confusion totale. Comment comprendre que cette souffrance a commencé particulièrement en Occident et pas en Afrique. Il n'y a que Dieu qui sait pourquoi cela s'est fait. Mais ce que nous devons retenir, c'est que cette maladie frappe le monde, mais cache un mystère certainement derrière elle. Il est peut-être difficile d'expliquer la souffrance parce que nous n'en avons pas le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que cette maladie est en train de frapper sur le plan individuel, sur le plan communautaire, mais aussi sur le plan national. Il y a des nations qui sont frappées. Il y a des personnes qui sont frappées. Il y a des familles qui sont frappées. On pourrait dire que cette maladie touche au cœur de notre vie, au cœur de notre propre existence. Cette maladie nous paralyse, nous plonge dans la confusion totale. Et nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Coronavirus a commencé en Occident, mais n'a pas commencé en Afrique. À supposer qu'on ait commencé en Afrique, quel serait notre continent? Quels seraient nos pays? Qu'est-ce que nous deviendrions? Dieu a permis qu'il en soit ainsi parce que la parole de Dieu dit, comme je venais de le dire tout à l'heure, dans Amos chapitre 3, les versets 6 à 7, il est dit que malheur arrive-t-il dans la ville sans que le Seigneur le sache, sans qu'il en soit l'auteur. Et le verset 7 ajoute que le Seigneur ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. C'est pour cette raison que nous nous tenons ici pour essayer de tirer des leçons par rapport à ce que cette maladie est en train de nous apprendre. Et la deuxième chose que je vais donc dire dans ce message, coronavirus, maladie qui inquiète, mais qui interroge nos propres sécurités, qui relativise même nos propres sécurités. Comme je viens de le dire tantôt, le système sanitaire du monde occidental est très avancé, il est très développé, mais il se retrouve débordé. Ce qui étonne, c'est que cette maladie ne frappe pas une catégorie de personnes. Elle frappe les riches, elle frappe les pauvres. Elle frappe les enfants, elle frappe les jeunes, elle frappe aussi les vieillards. Cette maladie frappe tout le monde. Elle ne laisse rien sur son passage dans la mesure où on n'a pas été suffisamment préparé. Elle fauche la vie des gens. Mais une autre chose à retenir ici, c'est que ici en Afrique, dans nos pays, particulièrement dans nos États, quand les chefs politiques tombent malades, quand les chefs militaires tombent malades, quand les riches tombent malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Occident pour chercher à se faire soigner. Ils vont en Inde, ils vont en France, ils vont en Belgique, ils peuvent aller en Suisse pour se faire soigner parce qu'ils en ont les moyens. Mais aujourd'hui, ces pays où nous étions en train, où certaines personnes étaient en train de trouver refuge pour trouver des soins, ne sont pas en mesure d'y aller parce que ces pays sont en train d'être infréquentables. Chacun de nous est appelé à rester chez lui. Soit nous restons dans notre pays, soit nous restons dans notre maison lorsqu'il y a ce qu'on appelle les confinements, soit aussi les voyages sont interdits. Parce que la Chine, beaucoup de gens, quand ça a commencé en Chine, beaucoup de gens se sont retrouvés en train de fuir la Chine pour se retrouver ailleurs où ils croyaient trouver la sécurité. Mais même là où ils sont allés chercher la sécurité, ils n'ont pas trouvé refuge. Ils ont trouvé refuge. Et aujourd'hui, ces pays-là où ils étaient en train de croire trouver la sécurité sont en train d'être atteints. Comment trouver la sécurité? Je crois que la maladie en question est en train de nous montrer à quel niveau nous savons le seul refuge qu'on peut trouver, il faut le chercher ailleurs. Et où trouver ce refuge-là? Aujourd'hui, en tant que croyants, nous devons nous rendre compte que le seul refuge qui nous reste, nous sommes ici en Afrique, c'est le refuge doit être trouvé en Dieu seul lui-même. Parce qu'en fait, il n'y a que lui qui a la maîtrise d'un virus aussi destructeur comme celui-là. Il a le pouvoir peut-être d'intervenir à notre faveur et nous accorder sa grâce. La troisième chose que je voulais partager avec vous, cette souffrance que transporte la maladie à virus Ebola, est-ce un jugement de Dieu? Je ne pense pas qu'on peut déjà commencer à dire ici que Dieu est en train ça traduit la colère de Dieu sur les hommes, parce qu'on peut croire que les Occidentaux sont plus pécheurs que nous. Non, on ne peut pas dire ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est de savoir qu'il n'y a pas de malheur qui vienne par hasard, comme le dit Amos chapitre 3. Ce qui est certain, c'est que dans le feu de l'épreuve, c'est ça la leçon qu'on doit tirer dedans, Dieu cherche toujours que ces créatures se souviennent qu'il est là, se souviennent qu'il existe, se souviennent que devant lui, chacun d'entre nous, un jour devra rendre compte. Le Seigneur peut provoquer des situations, peut permettre des situations de malheur, de détresse qui arrivent chez nous ou qui arrivent par-ci, par-là, pour que ces créatures arrivent à un moment donné à se rendre compte que le Seigneur est là. Il faut donc franchir, si on se rend compte que le Seigneur est là, il faut franchir le pas de la connaissance, qu'est-ce qu'il veut me révéler. À travers une situation de malheur, quel message doit-on tirer dedans? Que les pécheurs prennent conscience qu'ils ont péché contre Dieu et que ceux qui marchent selon eux-mêmes et ne marchent pas selon Dieu prennent conscience que Dieu nous rappelle tous à nous rendre compte que nous sommes appelés à marcher selon ses ordonnances, selon ses prescriptions dans les Écritures. Le temps est arrivé où ce qui est en train de nous arriver comme malheur doivent constituer pour nous des opportunités, où chacun doit tirer profit de ces opportunités pour essayer de se rendre compte à quel niveau il est dans sa marche avec Dieu. Comment se comporte-t-il devant Dieu? Comment conduit-il sa vie devant Dieu? Parce que notre vie tire leur origine, qui que nous soyons asiatiques, que nous soyons européens, que nous soyons américains, que nous soyons africains, quel que soit notre peau, quel que soit notre statut social, nous tous, nous sommes appelés à rendre compte un jour devant Dieu. Peut-être que ce qui est en train d'arriver n'est pas encore exactement le jugement de Dieu, mais ça présage, c'est un prélude, effectivement, de la manière dont le jugement de Dieu va frapper ce monde. Parce que quand le jugement de Dieu arrivera, personne n'échappera. Les nations tout entières seront frappées. L'humanité tout entière sera frappée. Les hommes et les femmes seront frappés. Les garçons et les filles seront frappés. Les noirs et les blancs seront frappés. Les riches et les pauvres seront frappés. Les sages et ceux qui ne, les ignorants seront frappés. Les intellectuels et ceux qui ne le sont pas seront frappés. Donc, je crois que, à mon humble avis, je suis en train d'être convaincu que ce n'est qu'un prélude pour nous avertir que celui qui tient le contrôle de l'histoire de l'humanité, c'est Dieu. C'est donc à lui que nous devons nous référer. C'est vers lui que nous devons porter notre attention parce qu'il est le seul capable de nous aider à traverser cette tragédie. C'est ainsi que je voudrais dire que Dieu se sert des malheurs. Il se sert d'ailleurs toujours des malheurs. Il peut se servir des guerres. Il peut se servir des éboulements de terre. Il peut se servir de la maladie à virus Ebola. Il peut même se servir de cette maladie qu'on appelle coronavirus pour amener ces créatures à s'arrêter un peu, à réfléchir, à revenir chacun à des bons sentiments. Des sentiments plus justes, mais des sentiments plus humains et plus dignes comme on devra s'y attendre. Se rendre compte, effectivement, c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour que chacun de nous se rende compte que nous sommes fragiles. Nous sommes vulnérables, qui que nous soyons. Riches ou pauvres, nous sommes vulnérables. Savants ou ignorants, nous sommes vulnérables. Hommes ou femmes, nous sommes vulnérables. Africains, occidentaux, nous sommes tous vulnérables. À n'importe quel moment, Dieu peut dire stop. Parce qu'il peut dire stop, il faut donc se raviser. Il faut donc se laisser avertir par le Seigneur et se rendre compte que notre temps, notre vie ne dépend pas de nous. C'est pourquoi dans le psaume 90, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. À qui est-ce qu'on s'adresse pour demander à nous aider à bien compter nos jours? C'est à Dieu en fait notre Créateur. C'est lui sur qui tient notre propre existence et notre propre vie. Et c'est ça qui nous porte au dernier point de notre message. Il faut reconnaître que Dieu a inscrit notre vie dans le temps. Dieu a inscrit notre vie dans le temps. Parce que nous naissons un jour, mais nous mourrons un jour. Le temps qui se situe, la transition qui se situe entre la naissance et la mort qui va nous porter au jugement de Dieu, c'est un temps très significatif pour notre existence. et pendant lesquelles nous avons à prendre des décisions importantes, donner à nos vies des orientations conséquentes, parce que notre vie est inscrite dans les temps. Et même la maladie, le coronavirus, elle-même est inscrite dans les temps des nations, dans les temps des individus. C'est une occasion que chacun de nous devrait prendre à profit pour essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il fait de sa vie, qu'est-ce qu'il fait du temps que le Seigneur lui donne. Le temps, bien-aimé, est le trésor le plus précieux au-delà de notre vie. C'est le trésor le plus précieux que nous avons reçu de Dieu. Il est tellement précieux que nous devrions le gérer avec beaucoup de sens de responsabilité. C'est quand même curieux de constater que le temps est resté inamovible. Nous avons un jour de 24 heures, nous n'aurons jamais un jour de 25 heures. Nous avons une semaine de 7 jours, nous n'aurons jamais une semaine de 8 jours. Nous avons certainement des mois de 30 jours, il y en a aussi de 31, mais il y en a aussi de 28, mais quand on dit que c'est tel mois, 30 jours, il n'a que 30 jours, il ne peut pas avoir plus. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. Nos années ont 12 mois. Il n'y a pas d'année de 13 mois ni de 14 mois. C'est-à-dire que Dieu, dans sa prescience, dans sa sagesse, a inscrit le temps de l'homme dans un temps limité. Et parce qu'il a inscrit notre temps dans notre vie dans un temps limité, voilà pourquoi nous ne pouvons pas produire beaucoup de temps. Non, c'est impossible. Nous pouvons être féconds et produire beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de temps. Font produire beaucoup de diplômes, mais pas beaucoup de temps. Vous pouvez avoir des titres. Il y en a qui en ont eu plusieurs jusqu'à arriver au sommet, mais ils n'auront pas beaucoup de temps. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent en compte, mais nous n'aurons jamais beaucoup de temps. Le temps est limité. Le temps est précieux, limité par Dieu lui-même, pour que nous puissions comprendre qu'il nous vient de lui. C'est un don de Dieu. Nous devons le gérer avec beaucoup d'attention. Malheureusement, ce temps qui est don de Dieu, nous le gérons, nous l'utilisons très mal. Nous sommes aujourd'hui dans les excès des loisirs. Cela, on le voit en Occident. Quand tu vas en Europe, tu constates que les gens sont dans les excès des loisirs. Ils ont du temps pour les loisirs, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Voilà pourquoi en Europe ou en Occident, il n'y a pas de gens dans les temples, mais ils sont pleins dans les restaurants, ils sont pleins dans les salles de jeux, ils sont pleins partout, mais pas dans les temples. Il n'y a que 30 personnes au culte, tout au plus. Il y a des excès du temps, des gestions de la manière dont nous utilisons le temps par le travail. Le travail nous consomme beaucoup de temps, mais nous n'avons pas le temps pour Dieu. Les réseaux sociaux nous consomment beaucoup de temps, mais pas de temps pour Dieu. Même le temps que nous utilisions par le passé pour des échanges humains, nous nous retrouvons en train de parler, nous entretenir, nous édifier mutuellement, partager nos douleurs, partager nos joies avec quelqu'un, ce temps-là est en train de disparaître. Les gens ont beaucoup plus de temps au téléphone qu'avec les autres. Notre propre confort nous prend du temps. Nos fausses sécurités nous prennent du temps. Que nous cherchons dans les positionnements sociaux, dans les plaisirs sexuels, dans l'alcool, dans les diplômes, tout ça, c'est le temps que nous donnons là, mais pas pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de temps ni pour Dieu, il n'y a pas de temps suffisamment pour la promotion du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet des situations de détresse, où nous ne pouvons plus fréquenter nos temples. Même les dimanches, nous ne sommes plus autorisés à les fréquenter. Nous ne pourrons plus nous regrouper en train de méditer la parole de Dieu ensemble, sinon on vient nous arrêter. Dieu nous ramène finalement à revenir chacun à lui-même. Pour que nous puissions nous retrouver seuls, face à face avec Dieu. Pour que chacun arrive à un moment où effectivement il doit réfléchir sur la manière, avoir un regard rétrospectif sur la manière dont il a conduit sa propre vie. Où est-ce qu'il en est avec Dieu? Dieu nous arrête un peu. Dieu nous demande de stopper un tout petit peu pour apprendre à donner notre vie à Dieu. Mais donner notre vie à Dieu signifie lui donner aussi notre temps. Notre temps. Pour qu'il les gère. Enfin, pour qu'il en soit le Seigneur. Pour qu'il occupe la première place dans la gestion de notre temps. De notre propre vie. Jésus, lorsqu'il a été envoyé, selon Galates chapitre 4, verset 4 à 5, il dit « Quand le temps fut accompli, Dieu envoya son propre fils, né d'une femme. » Une manière de dire que Dieu aussi inscrit son propre travail, même le plan du salut de l'humanité, dans le temps. Quand le temps fut accompli, il n'a pas envoyé son fils avant qu'il ne soit temps. Il n'a pas envoyé à contre-temps. Il a envoyé au temps fixé. Selon lui, il a envoyé son propre fils pour le salut de l'humanité. Et donc, Dieu a fait ça parce qu'il a pris au sérieux le salut de ses créatures que nous sommes. Il nous aime tellement qu'il a inscrit dans son agenda le salut de l'humanité tout entière. Toi et moi. C'est dans le temps que se joue ton salut. C'est dans le temps que se joue le salut de ton ami. C'est dans le temps que se joue le salut de ton collègue. C'est dans le temps que se joue le salut de ton conjoint, ta conjointe, ton enfant. C'est dans le temps que se joue toute notre destinée éternelle. Alors le temps, c'est pas une moindre affaire. Nous devons le prendre avec beaucoup de sérieux. Parce que Dieu inscrit notre vie dans le temps, nous devons faire attention à la manière dont nous gérons notre temps. Le Seigneur nous accorde la grâce de nous en rendre compte pendant que les temples sont fermés ou resteront fermés. Pendant qu'on va, il y aura des restrictions pour que nous ne puissions pas nous retrouver à plus de 20 dans un regroupement quelconque. Pendant qu'il y a des restrictions de distanciation d'un mètre pour parler à quelqu'un. C'est une manière de te ramener à toi-même, de me ramener à moi-même face avec Dieu. Il faut que je tire profit de cette occasion pour que le Seigneur m'apprenne à compter mes jours. À savoir que Dieu m'appelle à la repentance sincère. Pour que j'apprenne que le temps qu'il me donne est précieux, mais il veut que je puisse inscrire chaque jour de ma vie Dieu dans mon agenda, comme occupant la place qui lui revient de droit. Et la promotion du royaume de Dieu doit être une préoccupation principale pour moi-même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Que tu nous fais de pouvoir être dans ta présence et de pouvoir te louer.